Hey, bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Christophe Nonorgue, notre recordman du monde de dénivelé suisse. Salut Christophe.
Salut Hugo.
Alors recordman du monde, puisque l'an dernier tu as dépossédé Aurélien Dunant-Palaz d'un record qu'il avait amené à 17 200 et quelques mètres de dénivelé en
Ouais,
montée et en descente.
17 218, c'est juste, ouais.
17 218, ouais. En montée et en descente, c'est un peu ça qui est dur surtout. Et toi, tu avais frappé fort, tu avais fait 18 500.
18 767. Excuse-moi, je suis suisse, je suis précis sur les
Ah ouais.
chiffres.
Moi, je suis à 500 près, mais disons que t'as pas trop à être précis parce que vu que tu lui as mis plus de 1000 mètres dans la vue, voilà, il n'y a pas de débat.
Ouais, c'est vrai que ça s'était bien passé et puis je m'attendais pas à mettre la barre aussi haut que ça. Mais voilà, il y a des jours comme ça où tout est bien aligné et puis ça se passe mieux que prévu.
Alors c'était d'autant plus amusant que bon, tu avais fait une préparation qui était vraiment très très spécifique, autant sur le plan nutritionnel on peut dire des choses, autant sur la programmation de l'entraînement. Là c'était une belle horlogerie, parce que tu n'avais pas été au sommet de tes capacités sur les 2 derniers survivants que tu avais fait, et là par contre le jour J tu avais sorti le jour de grâce, quoi.
Exactement, c'est-à-dire que dans la préparation, ben, bon, c'était surtout une préparation axée bien sûr sur le dénivelé, beaucoup de volume, je tournais à peu près 1200 mètres par jour de D+. Et puis, ben c'est vrai que j'avais jalonné un peu cette préparation avec le dernier survivant, la variante de Neuchâtel, puis la variante Valaisanne à Martigny. La variante à Neuchâtel, c'était pas très bien passé, effectivement. C'est
Faisait
aussi que j'avais,
chaud.
ouais, et puis j'avais le double rôle coureur-organisateur, qui n'était pas évident à gérer. Voilà, je me suis décidé le soir avant, à 22 h, à prendre un dossard suite à un désistement. Donc voilà, c'était plus pour vivre l'expérience une fois de l'intérieur. Mais ben, je m'attendais à ce que ça ne se passe pas forcément au top, mais ça m'a fait une grosse sortie, quoi. Pour ce qui est de la variante valaisanne, c'était l'occasion aussi de tester un petit peu des compléments alimentaires, puisqu'habituellement, je tourne surtout aux gaufres, aux madeleines et aux coca. L'idée, c'était de tester quelque chose d'un petit peu plus professionnel sur la nutrition. Ça s'était bien passé.
T'avais
Et
des trucs Enduroactive, non?
Enduractive et Finof,
Ah
exactement.
ouais, Finov, ouais. C'est Patrick
Finof
Bouard
pour la
qui
boisson,
t'a...
Enduractive pour les compotes.
D'accord.
Et puis ben là, je dirais que ça s'était plutôt bien passé, même si ben, je n'étais pas allé au 24, mais je crois que j'étais allé à 20 boucles, quelque chose comme ça. Sur un parcours qui me convient moyennement, puisque la descente est longue, plutôt en faux plat, plutôt roulante, et puis que j'ai toujours de la peine quand il faut un petit peu dérouler. Donc finalement, j'étais vraiment content de ma forme à ce moment-là. Il me restait encore 3 semaines avant le record. Je pense que c'était un peu le délai minimal de laisser 3 semaines entre ces deux grosses sorties.
Ah, c'était joueur, mais ça a payé. Et puis cette année, Christophe, tu as eu la chance, alors il ne faut pas le crier sur les toits, hein, apparemment, d'être sélectionné pour la Barclay, et qui était
Exactement.
un de tes rêves.
C'est ça. Ça fait longtemps que j'y pensais. En 2021, j'ai eu une fracture assez importante du péroné avec déchirure des ligaments et tout ça. J'ai été stoppé 3 semaines assis sur mon canapé. Et puis, ben, comme on dit, à toute chose, malheur est bon. C'est ça qui m'a laissé beaucoup de temps sur l'ordinateur et petit à petit qui m'a permis de découvrir le processus d'inscription secret de la Barclay. J'ai fait ma première postulation pour 2022 en faisant un petit peu une postulation à l'envers, c'est-à-dire que dans la postulation, on demande en général pourquoi est-ce que je devrais être autorisé à participer à la Barclay. Moi, j'ai mis pourquoi je ne devrais pas être autorisé à participer à la Barclay en 2022. Et conclusion, ben, parce que je le visais plutôt pour 2023. 2022, je pensais que c'était un petit peu tôt par rapport à ma blessure où je ne serais pas encore complètement remis. Et puis voilà, j'ai repostulé pour 2023 et cette fois, je suis pris.
Alors la Barclay, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Tu vas être dans un camping en forêt dans des conditions assez difficiles en termes de météo. Et un jour, en fait, Laz, l'organisateur, se lève, il met un coup de corne, là, il faut rejoindre le départ, il allume une cigarette et c'est parti.
Exactement.
Et il faut faire des tours. Tu as 5 grands tours à faire pour être finisher. Et quand tu finis un tour, tu dois aller chercher une page d'un livre, c'est ça, et la ramener.
Alors en fait, c'est un parcours qui est non balisé, qui est tracé à
Oui,
80%
aussi.
hors sentier. Ouais, 80% de hors sentier. Et pour prouver qu'on a bien suivi le parcours, puisqu'on n'a pas de puce GPS, rien du tout, il y a 14 bouquins qui sont planqués dans la forêt. On a une carte, on a une boussole, donc pas de GPS, rien d'électronique. Et puis, pour prouver qu'on est bien passé par ces points de contrôle, les bouquins sont en fait les points de contrôle. Ben, à chaque bouquin, on doit arracher la page qui correspond à notre numéro de dossard. Si on revient au camp dans les 12 heures maximum avec nos 14 pages, ben, ça valide notre tour. On peut prendre un petit peu de temps de repos si on veut, mais ce n'est pas obligatoire. On reçoit ensuite un nouveau dossard et on repart pour une boucle. Donc, c'est reparti. On va rechercher les 14 bouquins, on arrache la page correspondant à notre nouveau numéro de dossard et ainsi de suite. Et si on tient 5 boucles, on est finisher, mais ça n'arrive pas souvent.
Ah oui, du coup, une fois que tu as fait la première boucle, tu vas retourner au même endroit?
Exactement. Les 5 boucles sont les mêmes. Les livres restent planqués au même endroit. Alors, la petite variable qui rajoute pour augmenter un petit peu encore la difficulté, c'est que le soir avant, en même temps qu'on reçoit la carte du parcours, on reçoit aussi le sens dans lequel vont être faites les boucles. Il y a toujours un certain nombre de boucles qui sont faites en sens inverse. Donc, ça peut être, par exemple, une dans un sens, une dans l'autre, une dans un sens, une dans l'autre, ou alors deux dans un sens, deux dans l'autre. Ainsi de suite. Pour ceux qui se lancent sur une cinquième boucle, ils ont le choix de pouvoir tourner dans le sens horaire ou
Oh, quelle gentillesse!
anti-horaire.
Mais souvent les gens ils font deux, trois boucles plutôt, non?
Oui, je regarde un petit peu les statistiques. Il y a 40 coureurs au départ. Souvent, on va se retrouver avec quoi? On va dire entre 25 et 30 coureurs qui terminent la première boucle.
Ah ouais, quand même!
Quand même, oui. La première boucle, à peu près les deux tiers qui la réussissent. Je pense que beaucoup doivent se mettre un peu en sur-régime pour réussir cette première boucle parce qu'il y a en général une hécatombe dans la deuxième, puis on se retrouve avec 5-6 coureurs qui terminent la deuxième. C'est un petit peu les stats. Puis sur ces 5-6 coureurs, eh ben, il y a des fois 2-3 costauds qui vont en chercher une troisième, voire une quatrième et des fois une cinquième.
Oui, je crois que dans toute l'histoire, ils sont quoi, 20, 25, 27 à avoir fini?
15.
Ah oui, mais il y en a un qui a fini plusieurs fois, non?
Exactement, il y a eu 18 finishes en tout, donc 15 finishers différents, et il y
Ah
en a un
ouais.
qui a fini 2 fois et un qui a fini 3 fois.
Oh, le cochon. Et c'est à quelle date ça, Christophe? Ça approche là?
Ouais, exactement, ce sera dans le courant du mois de mars, mi-mars.
Ok.
Et puis, donc voilà, donc la date exacte, elle est donnée aux concurrents. Par contre, bah, comme tu l'as dit, pas l'heure exacte. L'heure de départ, ce sera entre minuit et midi. Donc, tout d'un coup,
Ah ouais, ok. Ouais,
le
ça
tenteur se
va.
décide, il souffle dans son coquillage, ça réveille tout le camping, et puis on sait qu'une heure après, on part.
Ok. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Parce que c'est quand même difficile. Le parcours est pas balisé, quasi. Enfin oui, il n'est pas balisé. T'es même pas sur des chemins. Donc courir, toi qui n'apprécies pas forcément la descente, qu'est-ce qui t'a séduit là-dedans, Christophe? La météo est souvent mauvaise aussi.
Oui, la météo est souvent mauvaise. C'est vrai que quand tu fais la liste comme ça, on peut se demander ce qui nous séduit là-dedans.
Hormis le défi, quoi, mais à part
Oui,
ça.
c'est ça. Ben, en fait, une des premières choses, et c'est ce que Laz dit, c'est que plus le défi est difficile, moins il est accessible, ben, plus ça le rend intéressant, finalement. Donc, le
Oui.
faible pourcentage de finishers est une chose intéressante. C'est un point commun avec le dernier survivant. C'est de se dire, OK, tous les autres s'y sont cassés les dents. Est-ce que moi, je vais aussi me casser les dents comme les autres ou est-ce que je vais m'en sortir un petit peu mieux? Ça, je dirais que ça titille forcément la curiosité et puis c'est le point de départ, l'intérêt principal. Ensuite, le deuxième intérêt, c'est qu'il y a un ratio de dénivelé par kilomètre qui est énorme et ça me convient bien. On se retrouve sur des moyennes qui sont très faibles, qui sont ben, non seulement liés à ce ratio de dénivelé, mais qui sont aussi liés au hors sentier, au fait qu'on passe dans des branches, dans des ronces, sur des troncs d'arbres, à travers des rivières et compagnie. Et du coup, on se retrouve dans des vitesses très très faibles, qui souvent sont justement un facteur qui plaise pas trop aux coureurs élites,
Ouais.
qui aiment bien faire de l'avance finalement, et puis qui aiment pas être en mode randonnée. Moi, je me rends compte sur mes 24 heures de dénivelé. L'année dernière, j'ai fait mes 18 000 mètres de dénivelé et quelques sur 80 km, si je me rappelle bien. Donc 80 km en 24 heures, ça fait même pas 4 km heure de moyenne. Et c'est justement dans cette spécificité-là que je suis performant. Si on vient voir mes résultats sur un UTMB, même sur une diagonale des fous, qui est plutôt pentue, qui est plutôt technique,
Ouais, mais ça court quand même beaucoup hein, au début.
court quand même beaucoup, exactement. Et du coup, ben, je me retrouve à pas tenir le rythme des coureurs, alors que ben, sur un dernier survivant, sur un 24 heures de dénivellation et sur une Barclay, on est sur des rythmes nettement plus faibles et c'est ce qui m'attire.
Ah, c'est bien vrai. Et
Avec le dernier
est-ce
survivant qui est un petit peu en zone grise, hein, puisque le dernier survivant, on va plus vite qu'une Barclay et puis ben, moins vite qu'un UTMB, quoi. On est un petit peu dans
que... Oui, c'est
l'entre-deux.
vrai, c'est vrai. Et pour finir sur cette barque-là, est-ce que tu penses que tu as les capacités pour finir ou est-ce que tu te dis, non, non, ça c'est beaucoup trop, c'est impossible?
Très bonne question. C'est-à-dire que
Je pense que tu as réfléchi à ça.
oui, exactement. D'autant que bah, je suis quelqu'un de très calculé dans tout ce que je fais. Quand je me suis lancé dans le 24 heures de dénivellation, j'avais fait mes objectifs, mes temps de passage. Je savais à peu près à quoi m'en tenir. Finalement, les choses sont passées un peu mieux que prévu, mais globalement, je savais que j'étais dans les clous. Sur une Barclay, il y a quand même beaucoup d'inconnus et c'est vraiment difficile de faire des prévisions à l'avance. C'est-à-dire que je pense que physiquement, je vais arriver avec les capacités suffisantes pour pouvoir terminer. Maintenant, on peut avoir un changement de météo, je peux me perdre dans le brouillard, je peux
Oui,
caler à
ça.
cause du sommeil sur la deuxième ou la troisième nuit dehors. Voilà, il y a beaucoup de facteurs externes qui font que c'est très difficile de faire des prévisions fiables. Mon objectif, en fait, ce serait d'arriver là-bas suffisamment en forme pour pouvoir suivre quelques vétérans, quelques anciens de top niveau, parmi les meilleurs, suivre le groupe de tête, en gros. Puis si avec eux, j'arrive à faire la première boucle, voire les deux premières, en sortant presque pas la carte et la boussole, parce que eux connaissent bien les lieux, et puis même si le parcours, il se modifie un petit peu chaque année, il n'est pas complètement réinventé. Donc ceux qui l'ont déjà fait sur plusieurs éditions, ils avancent vite et ils sortent pas beaucoup la carte. Donc voilà, ce serait mon objectif d'arriver suffisamment en forme pour suivre ces tout meilleurs sur une boucle, deux boucles, après pouvoir peut-être voler de mes propres ailes pour la suite. Mais voilà. Difficile à dire si je pense pouvoir terminer, mais je pense que sur l'aspect physique uniquement, j'aurai la condition qui peut me permettre d'aller au bout.
Ok, ouais. Bon, et ben, on suivra ça mi-mars, même si c'est un peu dur à suivre, il y a toujours un lien, il y a toujours une petite personne pour faire deux, trois bouts de vidéo,
Oui,
et
il
puis
n'y
on
a en
verra
général
ça.
pas beaucoup de suivi. Il y a quelques actus qui sont sur Twitter, mais c'est clair qu'il n'y a pas un live trail ou un suivi comme on trouve
Non, ouais.
dans.
Et pour coller à l'actualité, qui est en fait la raison majeure de ta présence ici, puisqu'on est dans la revue de presse qui traite de tout ce qui s'est passé en trail ce week-end. On s'est fait un peu chier en trail ce week-end, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et heureusement, tu es arrivé, Christophe, puisque tu as tout simplement réalisé les 24 boucles du dernier survivant, ta course à toi à Neuchâtel que tu as créée et qui, en ces 5 éditions, hein, je crois, n'ont jamais vu un seul finisher.
Exactement.
Pourtant, bah, il y a quand même eu Diego Pazos, il y a quand même eu mon frère Robin, moi l'an dernier. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, on y allait en se préparant, mais peut-être pas non plus à 100%. Et bon, finalement, il fallait être à 100%. Et toi, tu l'as fait à l'entraînement. Alors, est-ce que c'était le but? Qu'est-ce qui t'a pris? Comment t'as fait?
Alors, ben, je dirais première chose, depuis, on va dire, 2019-2020. Tout d'un coup, une fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me plaît vraiment dans le trail? De quoi j'ai envie? Et je m'étais mis trois gros objectifs. Là où beaucoup de personnes vont mettre des grandes courses comme l'UTMB, la Diag et tout, moi, je m'étais mis trois gros objectifs. C'était les 24 heures de D+, le
Ah
record.
ouais.
C'était terminer une fois mon propre défi du dernier survivant. Et c'était la Barclay. Quand je dis la Barclay, j'ai jamais osé mettre le mot terminer la Barclay. C'est déjà y participer pour voir la suite. Et donc, les 24 heures de dénivellation, on en a parlé, ça a été fait. La Barclay, je suis sélectionné. Et je me suis dit bah, que ça pourrait être pas mal dans le cadre de ma préparation à la Barclay, en vue d'un test sur mon état de forme, de me tester sur le dernier survivant et d'aller le plus loin possible. Alors, quand je suis parti dimanche matin, je n'étais pas forcément confiant pour les 24 boucles. J'avais passé une mauvaise nuit. Je ne me sentais pas très en forme le samedi soir. Je me suis dit, bon, allez, si je pars sur 15-16 boucles, on va dire que c'est une belle grosse sortie. Je suis content
Oui.
J'avais fait une semaine un petit peu plus légère pour arriver relativement frais le dimanche. Quand je dis un peu plus légère, ces temps, je tourne quand même à des semaines à 12 000 mètres à peu près de dénivellation par semaine. Là, le samedi soir, j'étais à 6 000 ou 7 000. Donc, ça m'aurait embêté le dimanche de caler après 7-8 boucles et puis faire finalement une semaine à 9 000. Alors, j'étais plutôt sur des semaines à 10 000. Donc, je me suis dit, il faudrait au moins que j'aille à 15 ou 16 boucles pour que cette semaine, elle soit dans la lignée des autres. C'est ce que j'ai visé dans un premier temps. Puis, ben, comme à 16 boucles, j'étais bien, ben, je me suis dit, ben, bien sûr, on va continuer, on va aller plus loin. Puis après, on se fixe des objectifs boucle après boucle. Arrivé à la 19e boucle, je savais que c'était mon record personnel. Arrivé à la 21e boucle, je savais que c'est ce que Aubin et toi, vous aviez fait. Et puis, ben, comme j'avais toujours pas ce coup de massue, ce coup de bambou qu'on a des fois sur une montée où ça tourne d'un seul coup, ben, j'ai commencé à y croire à ce moment-là. Je crois que c'est vraiment quand j'ai entamé la 22e que j'ai commencé à y croire. Avant, j'ai pas vraiment pensé au 24.
Ok, ouais. Et alors la neige, là, y en avait plus, là, c'était barré. La température, ça allait, parce que c'est. Putain, ça, nous, on avait eu trop chaud l'an passé, je me souviens.
Alors là, c'était frais, donc du point de vue température, c'était idéal. Il y avait des petits restes de neige. Il y avait des petits restes de neige, puis comme en plus en hiver, la descente du dernier survivant, elle est utilisée comme piste de luge pour les gamins qui descendent de Chaumont sur Neuchâtel, ben, c'est bien lissé.
Ah merde.
Donc du coup, il y avait deux passages qui étaient un petit peu glissants, un peu délicats, mais je te parle là de deux passages de 30 mètres, quoi. Donc en termes de chrono, ça change pas grand-chose. J'ai eu comme petite difficulté supplémentaire par rapport à la course que, ben, comme les journées sont plus courtes en ce moment, je ne suis pas parti au lever de soleil, je suis parti plus tôt, donc j'ai fait les quatre premières boucles à la frontale. Par contre, d'un autre côté, je pense que j'avais aussi un ou deux facteurs qui rendent le défi un petit peu plus facile pour un entraînement que le jour de la course. C'est-à-dire que je suis seul sur les sentiers, alors il y en a que ça peut déranger mentalement d'être seul, qui trouveront plus difficile. Pour moi, je sais que ça m'évite d'être dans un faux rythme, ça m'évite de tout d'un coup partir dans une discussion avec quelqu'un d'autre où on y laisse un peu d'énergie, où tout d'un coup on ne se rend pas compte que le chrono tourne vite, enfin des choses comme ça. Le fait d'être seul, pour moi, c'était un avantage. Pour toi qui as participé à la course, tu vois comment se passe l'infrastructure en bas, il y a un petit tour des tables à faire, alors c'est pas énorme, c'est 8 mètres dans un sens, 8 mètres dans l'autre, en gros ça fait une quinzaine de mètres que j'avais pas à faire puisque ben, moi j'avais pas ces tables de
Ah,
réponse.
t'as pas mis un petit piquet.
Ouais, je suis pas allé jusqu'à l'extrême de respecter le tour des tables du ravitaillement, effectivement. Donc voilà, on va dire que j'économisais ces 10-15 mètres à chaque boucle. Et puis aussi en bas, je me suis installé une petite chaise de camping et tout. Je pense que j'avais aussi un confort supérieur pendant mes petites secondes de ravitaillement chaque fois en bas que quand on est en compagnie de tous les autres coureurs et puis qu'on est face à notre bac et puis qu'on a juste nos 50 cm de largeur pour organiser notre ravitaillement. Donc voilà, je pense que j'avais un ou deux facteurs qui étaient plus compliqués liés au fait que de la saison, de la météo, et un ou deux facteurs qui étaient un petit peu plus faciles.
Ok, intéressant. Et du coup, donc la course se déroulera, alors là, pour le coup, avec toi au micro, avec la fameuse musique sur la sono qui apporte un peu de stress, hein, peut-être quand même. Et les 30 coureurs, ce sera samedi 25 mars. Je viendrai d'ailleurs encourager Aubin, qui du coup n'a plus le choix. Hein. Là, il faut qu'il réussisse les 24 tours. Hein.
Alors exactement, ben maintenant, faudra qu'Aubin il aille au bout. Il y en a d'autres hein, qui visent ces 24 tours.
Ouais,
Il y
est-ce que tu
aura...
peux nous dévoiler les 5-6 autres favoris là qui.
Ouais, alors effectivement, donc dans les autres favoris, bon, on a Diego Pazos qui revient.
Ah putain, il revient encore du coup, ouais.
Ouais, il revient encore, mais de nouveau un petit peu comme l'année passée. Il va plutôt venir un petit peu en entraînement, en
Ah donc.
amateur. Voilà, il est dans une période, ben voilà, il a une petite troisième, donc avec trois enfants à la maison et tout, il s'entraîne un petit peu moins. Donc voilà, il vient pas forcément dans le but de terminer, c'est plus pour la découverte. Par contre, on aura Tristan Blanchard, un excellent
Ça me dit
coureur
quelque chose.
régional. Ça doit te dire quelque chose parce que je crois, sauf erreur, que tu avais commenté le Wildstrubel by UTMB.
Oui.
Il avait fait quatrième à 1 minute derrière Sangay Sherpa.
Ah, ouais, c'est ça. Il avait fait une course de remontée, je pense.
Oui, exactement.
Il
Et
était
puis il
parti
avait
un peu
vraiment
loin.
fini tout, tout près du podium. Donc Tristan Blanchard, c'est du solide. On aura Mathis Granet. Solide aussi.
Ah, ça l'entraîne beaucoup là, ouais,
On a
exactement.
parlé aussi, bien sûr, Aubin. Il y aura Benoît Gandolfi.
Ouais, qui
Voilà.
a été sur le podium des championnats de France de KV.
Exactement. Et qui travaille de plus en plus le long et puis l'aspect métronome, puisqu'il vise le record du monde de dénivelé en 24 heures, fin avril. Donc pour lui, il va considérer ce dernier survivant un peu comme son dernier gros test avant ses 24 heures de dénivelé où il va ben, viser mon record de 18 700 mètres fin avril.
Ah, il l'avait déjà fait, mais
Exactement, il l'avait déjà fait, il manquait un peu d'expérience sur
Enfin, il
le
n'était pas
long.
assez costaud
Ouais.
musculairement.
Et là, ben, je le suis sur Strava, je suis sa préparation, c'est du sérieux, quoi. Je pense qu'il se prépare très très bien. Il a une vitesse de pointe, enfin, exceptionnelle en montée. C'est peut-être pas ça qui lui sera le plus utile, mais en tout cas, il est vraiment en train de travailler le côté métronome et puis le volume de manière sérieuse. Et puis, je pense que ce sera un sérieux client, autant pour le dernier survivant que bah, pour sa tentative des 24 heures.
Yeah, bah écoute, parfait, on va. J'ai hâte d'y être,
Et
j'ai
puis,
hâte d'y être.
on a Stéphane Brognard aussi qui viendra. Stéphane
Ah,
Brognard
viens,
qui
d'accord, ouais, avec
prend.
Benoît.
Ouais, qui prend presque plus de dossards, voilà, mais qui nous fera l'honneur de venir.
Ouais,
Il
il fait des gros
pourra faire
défis,
des aventures, là,
Stéphane.
c'est temps. Ouais. Donc voilà, je crois que là, j'ai dit les plus costauds, disons,
Ouais.
ceux qui peuvent se battre pour approcher les 24 boucles.
Ouais, on aura Marin, Giraud, Charéron en Patriote là, qui sera outsider. Je pense que pour
Exactement,
Marin,
oui, c'est juste.
un objectif à 20 boucles sera pas mal.
Ah, c'est du solide déjà 20 boucles,
Ben, c'est
on a
l'objectif. Après,
exact.
alors, en dessous de 15, il nous déçoit.
On
À 20, il réussit. Ah,
a aussi Steve Dober dans les cotes solides, je ne sais pas si
y
tu
a Steve Dober. Ah ouais. Ah, attention, lui, il est pas mal, Steve.
ouais. Donc ouais, pour dire qu'il y a seulement 30 concurrents sur la ligne de départ, ça fait beaucoup de solides, hein.
Ouais, bah 10, non, c'est ça?
Ouais, là, je pense que là, on en a cité pratiquement une dizaine,
Tu
exactement.
en prends 10 par rapport à leur performance, et puis après, tu.
Exactement. Après, il y a un
Ouais.
tirage au sort pour que finalement, tout le monde ait sa chance, même si on n'a pas une Cotitra ou un CV exceptionnel.
Et puis je me rappelle même l'an passé, celui qui avait abandonné le plus tôt, il avait quand même fait 4 boucles, donc ça fait quand même 2 heures à batailler dans la pente.
Exactement.
Ok, et bah écoute Christophe, je te remercie, nous voilà arrivés au bout, et donc rendez-vous sur Internet mi-mars pour te suivre. Et en physique, il y a quelques patriotes qui sont suisses, qui habitent pas très loin, là, qui viendront, j'en suis sûr. En physique, samedi 25 mars pour encourager les coureurs.
Exactement. Merci beaucoup. Et ben, je te verrai aussi le 25 mars, du coup, à cette même occasion.
Exactement. Salut Christophe.
Allez, salut Hugo.